Chapitre 4 Le lac nymphé. Le lac tout semé d'îles, enchanté par de grands nymphées à pâles, dans leurs anses plantées d'une végétation infinie de fleurs, d'herbes, de buissons et de grands arbres, le lac s'allongeait à des lieues. Nous dirigions vers une des îles. Notre défiance était partie, comme était parti l'air lourd et somnolent, l'air morbide du marécage. Nous respirions à plein poumon la santé, à pleine âme l'espérance et la poésie lacustre. Le radeau s'arrêta à la pointe d'un promontoire. L'homme des eaux sortit et nous fit signe de le suivre. Et nous nous trouvâmes devant le plus extraordinaire spectacle. Sur une berge de l'île, une trentaine d'êtres humains étaient réunis, vieux et jeunes, hommes et femmes, jeunes filles, enfants. Tous avaient le teint vert, la peau lisse, les yeux d'escarboucle, aux grandes prunelles aplanies, les cheveux pareils à des lichens barbus, les lèvres violettes. À notre vue, les enfants accoururent, et les adolescents, les adolescentes, un grand vieillard. Ils se pressaient autour de nous avec des exclamations de batraciens. Il montrait une grande vivacité rieuse. Tandis que nous nous tenions là, d'autres hommes des eaux surgirent du lac et vinrent sur la berge. Bientôt, nous nous trouvâmes entourés de cette population aquatique, non seulement bien humaine, mais plus proche, comme très généraux, de la race blanche que des autres races terrestres. Leur couleur verte et la mouillure huileuse de la peau n'était pas même désagréable à contempler. Chez les jeunes, c'était un joli vert pâle, léger comme celui des végétations claires du printemps. Chez les vieux, c'était souvent le vert de velours, des mousses ou des feuilles de lotus. Quelques jeunes filles présentaient une sveltesse de corps, un effilement des extrémités, une finesse de traits qui les rendait véritablement séduisantes. Je tenterai en vain de dire notre émerveillement. Ce que nous ressentîmes ne peut être pressenti que par ces rêves où l'âme entrevoit la jeunesse du monde, les temps divins des genèses. Pour le capitaine et moi, il s'y joignit un orgueil de savant. Quelle découverte comparable à celle-ci! N'était-ce pas réalisé sans l'appareil mythique des ancêtres, sans les monstruosités de l'homme bête ou de l'homme poisson? Une des plus attrayantes traditions de tous les peuples. Une fois de plus, ne vérifions-nous pas que les légendes ont constamment une origine de vérité. De même que le gorille, l'orang-outan et le chimpanzé avaient justifié la fiction des faunes et des satyres, les relations d'Octésias sur les Calistriens, le passage du périple d'Anon sur les hommes vêtus du golfe de la Corne du Sud, de même ne voyons-nous pas se réaliser l'immense cycle légendaire des hommes des eaux. Encore notre découverte était-elle plus passionnante? Les hommes que nous avions sous les yeux étaient de vrais hommes et non des anthropoïdes. Le premier étonnement passé, il ne demeura en moi qu'une espèce d'ivresse mystique que je voyais partagée par Sabine et par Devreuse. Notre sauveur nous entraîna vers un bosquet de frênes. Nous y trouvâmes un abri. Des oiseaux aquatiques rôdaient autour, canards, cygnes, poules d'eau, évidemment domestiqués. On nous apporta des œufs frais, une perche rôtie, et après le repas, nous retournâmes sur la berge. Le temps était tiède. Nous suivîmes toute l'après-midi les allées venues des hommes des eaux. Ils filaient comme de grands batraciens, plongeaient, disparaissaient. Puis une tête émergeait, un corps bondissait sur l'île. Ému du bonheur de leur double vie, je continuai à les examiner avec une curiosité dévorante, tâchant de découvrir quelque organe d'adaptation qui leur permit de séjourner si longtemps sous l'eau. Mais, sauf une grande capacité thoracique, je ne trouvais aucun indice qui pût m'éclairer sur ce point. Cet après-midi, nous ne demeurâmes jamais seuls. Un groupe constant nous entourait. s'exerçant à nous adresser la parole, nous témoignant une innocente bienveillance. Malgré la séduction et la merveille de ces êtres étranges, nous nous proposions de partir dès le lendemain, comptant d'ailleurs revenir au plus vite après avoir pris des dispositions avec nos hommes. Le capitaine, devant l'intérêt supérieur de la découverte, renonçait à son fameux passage vers le sud-ouest. Le sort modifia nos projets. Dans la nuit, je fus éveillé par Devreuse. « Sabine est malade !» Je me levai en sursaut. À la pâle clarté d'une torche de frêne, je vis l'aimé qui s'agitait dans la fièvre. Saisi, je l'examinais, je l'auscultais, je me rassurais à mesure. « Est-ce grave ?» demanda le père. « Oh, quelques jours de tranquillité absolue la remettront. Mais combien de jours ?»« 10 jours. C'est le moins ?»« Oui, le moins. » Il fit une moue d'impuissance. Il me regarda dans la pénombre. « Robert, je puis vous confier votre fiancé. Il n'est pas possible que je n'aille pas m'entendre avec les hommes pour qu'ils prolongent leur halte pendant une couple de mois. Non, je serai de retour ici à la fin de la semaine. » Il parlait avec agitation, allant de ci, de là. « D'ailleurs, si les semaines que je compte passer parmi ces êtres extraordinaires ne suffisaient pas, il est infaillible que nous organisions un nouveau voyage. Nous avons le temps. Je démissionnerai, s'il le faut, de manière à disposer de plusieurs années. Raison de plus pour que je n'abandonne pas mes hommes. Mais, répliquai-je, c'est à moi de les aller prévenir. Non, non, vos soins sont indispensables à Sabine. Oh, moi, je lui serai pas plus de secours qu'une souche. » Il me mit les mains sur les épaules. « N'est-ce pas, Robert ?»« Je vous obéirai, » dis-je. Sabine, quoiqu'elle eût un peu de délire, nous avait très bien compris. Elle se souleva sur le coude. « Je serai assez forte pour te suivre, père. »« Petite fille, » répliqua Devreuse avec autorité, « obéis au médecin. Avant 6 mois, je serai revenu et j'aurai accompli mon devoir. Est-ce toi qui prétendrais m'en empêcher ?» Sabine ne répliqua rien, subjuguée. Nous demeurâmes quelque temps taciturnes. La fièvre recommença d'agiter la jeune fille. Puis elle tomba dans un demi-sommeil. Je l'épiais à la pauvre lueur de notre torche. Des pressentiments indéfinissables passèrent. La voix du capitaine vint me tirer de ma rêverie. « Vous êtes bien sûr que ce n'est pas dangereux. »« Oh, médecine, on n'est jamais sûr. »« Mais autant qu'on peut l'être, autant que je puisse en juger, mademoiselle Sabine sera rétablie dans la quinzaine. » Eh bien, je partirai donc tantôt. Je sentis bien que sa résolution était prise. Je n'essayai plus de le dissuader. Il partit au matin, comme il l'avait annoncé. Le mal était encore moins grave que je n'avais imaginé. Au bout de 3 jours, Sabine était en convalescence et pouvait se lever pendant quelques heures. Le temps restait charmant. Une mouvante beauté s'épandait sur l'île et le lac. Nos hôtes lacus étaient pleins de bonne volonté, de gentillesse, de sympathie. La semaine passa. La jeune fille était presque entièrement rétablie, mais une grande inquiétude naquit. Le capitaine ne revenait pas. Une après-midi, assis sur la berge, je consolais Sabine de mon mieux, sans parvenir à calmer ses inquiétudes. « J'ai peur !» répétait-elle. Je ne savais plus que lui dire lorsque nous vîmes une ombre s'allonger près de nous. En me retournant, je vis que c'était celui des hommes des eaux qui nous avaient sauvés et avec qui nous avions des relations plus particulièrement amicales. Il sourit, nous montra une grande hirondelle cendrée spéciale à ces régions et très familière. Quand il fut proche, il me tendit l'oiseau. « Qu'est-ce ? » demanda Sabine. Je m'avisais bientôt d'un petit tuyau de plumes fixé sous le ventre pâle et que je détachais. Il contenait un fin fragment de papier pelure. « Une lettre de votre père !» Il n'y avait que ces mots. Arrivé port, jambes démises dans une chute, rien de grave. Mais je suis retardé. N'ayez aucune inquiétude et surtout attendez-moi. Ne quittez pas l'île. Sabine éclata en larmes. Pour moi, je m'étonnais que le capitaine eût songé à emporter ce petit messager. Un sourire de l'homme des eaux me fit soupçonner que l'idée ne venait pas de Devreuse. Ma compagne continuait à se désoler. « Sabine, chuchotais-je avec douceur, c'est pas dangereux. Une jambe de mise, il n'y paraîtra plus dans quelques semaines. Vous en êtes sûr ? Absolument !» L'homme des eaux avait disparu. Sabine, morne, ne pleurait plus. Il régnait un vaste silence. Je passai mon bras autour du col gracile. La tête blonde reposait sur mes bras. Mes yeux se réfléchissaient dans les yeux de lumière. Hélas, à travers les vicissitudes, jamais je n'avais été plus heureux. Elle était faible, lasse. Elle ne demandait que de croire. Le ciel pur, les ombres tremblantes l'enveloppaient de divinité. Ô puissance mystérieuse qui a créé l'amour, vainqueur de la mort. Chapitre 5. Les habitants du lac. Les jours passèrent. Nous nous attachions de plus en plus à ce lac merveilleux. Nous y allions visiter les îles en compagnie de nos amis aquatiques. Des troupes de jeunes hommes et de jeunes femmes poussaient notre radeau en se jouant, nageaient tout autour dans l'eau très transparente. Nous prenions du repos aux berges fraîches sous de frêles saules ou de hauts peupliers. Mais de cette vie délicieuse, le charme supérieur était nos hôtes mêmes, que nous commencions à connaître, avec qui nous échangions trois ou quatre paroles. Toutefois, c'est eux qui apprenaient notre langue. Nos oreilles demeurent impuissantes à analyser les sons dont ils communiquaient entre eux. Leur mœurs étaient simples et faciles. La notion de famille leur était parfaitement étrangère. Je crois que toute la population du lac montait à 1200 personnes environ. Hommes et femmes élevaient indifféremment les enfants. Nous n'en vîmes négliger aucun. Les habitations étaient de bois, recouvertes de mousse et de branchages, creusées de fenêtres. Elles ne servaient guère durant la belle saison et devaient être plutôt des abris pour hiberner. Leur cuisine se faisait en plein air et ne consistait qu'en cuisson de poissons, d'œufs, de champignons et de quelques légumes sauvages. Ils ne mangeaient pas leurs oiseaux domestiques, ni aucun animal à sang chaud. Nous comprîmes qu'ils répugneraient à nous en voir nourrir, et nous nous contentâmes de leur régime. Notre santé s'en trouva très bien. Ils avaient quelques armes, entre autres une manière de harpon hélicoïde, qui pouvait lancer sur l'eau, non seulement en ligne droite, mais encore en série de courbes, et faire revenir à eux comme le boomerang des Australiens. Ils s'en servaient pour capter les gros poissons. Il faut dire ici que les poissons du lac étaient les plus rusés que j'ai jamais vus, sans doute à cause même de la présence d'un homme marin qui, de génération en génération, les avait accoutumés à une défense plus subtile qu'il en ont d'ailleurs coutume. Nos hôtes en avaient aussi apprivoisé beaucoup. Ils ne touchaient pas cela, ils ne consommaient que leurs œufs. En revanche, ils étaient âpres à la chasse, aux brochets et aux perches. Leur industrie n'était pas complexe, encore qu'ils connussent le métier de potier et les éléments de ceux du menuisier et du charpentier. Ils n'usaient point de métaux, mais d'une sorte de néphrite fort dure, dont ils faisaient leurs harpons, leurs scies, leurs haches et leurs couteaux. Somme toute, la simplicité de leurs besoins matériels ne les portait guère à l'industrie. Leur vie était plus poétique que pratique. Jamais je ne vis créature plus débarrassée qu'eux de tout souci d'accaparement ou de propriété. Il semblait n'avoir retenu que les éléments de bonheur et écarté toute vaine souffrance. Non d'ailleurs qu'ils fussent indolents. Ils adoraient l'exercice et voyages aquatiques jusqu'à l'épuisement. Mais ils étaient sans cesse en mouvement comme des cétacés à l'encontre des sauvages qui passent des chasses forcenées au long jour d'assoupissement, ce qui se remet inlassablement. Mais cette prodigieuse action n'avait aucun but productif. C'était leur rêve. Ils nageaient, voguaient, bondissaient, comme d'autres se reposent. À part quelques chasses sous l'eau, et uniquement contre les poissons carnivores, ils bougeaient pour bouger. Je leur vis résoudre d'extraordinaires problèmes de mouvement. Une variété d'attitudes et de lignes auprès desquelles la souplesse de l'hirondelle ou du saumon est grossière. Leur jeu n'était qu'un continuel déploiement d'art, des nages denses, des ballets complexes et suggestifs. Aller voir se croiser, se tourner, décrire des hélices les uns autour des autres, se précipiter à 20 ou à 30 dans les tourbillons, on sentait chez eux un sens de pensée dynamique, de pensée musculaire, inconnu chez les autres humains. Surtout, ils étaient admirables dans le clair de lune. J'ai assisté à des fêtes sous l'eau, si belles, si douces, si rêveuses, fêtes d'évolutions si variées que rien ne s'y peut comparer en ce monde. Ces fêtes s'accompagnaient, lorsqu'ils étaient en nombre, d'un phénomène étrange et délicieux. L'eau, rythmée par leur ballet, élevait peu à peu une voix euphonique. Et cette voix, partie d'une mélopée indicible, une confidence de murmures, un chuchotement d'harmonie, s'enflait lentement, ineffablement. L'élément tremblait et chantait, l'élément envoyait un grand hymne humide. Ô douceur intraduisible, ô voix pénétrante du prodige, qui nous faisait venir des larmes d'exaltation. Encore je rêvais à la légende, à cette victorieuse voix des sirènes que les navigateurs antiques crurent ouïr sur les flots. N'était-ce pas elle que nous entendions dans la nuit argentée, mais si bonne, si fraternelle, et combien supérieure au mythe, car c'est l'eau même, c'est le lac qui chante, c'est la grande rumeur des vagues soumise au rythme par les hommes des eaux, comme il pourrait être soumise la rumeur du vent sur les forêts. La pensée par le mouvement n'était pas uniquement chez nos hôtes générale et poétique. Elle devenait souvent particulière. J'entends qu'elle servait à exprimer des notions précises. J'ai pu épier, par exemple, dans quelques cas, de véritables dialogues en action dont je finissais par saisir quelques vagues linéaments. Insuffisant sans doute pour me faire suivre la pensée des nageurs, mais très suffisant pour me faire saisir que c'était une causerie que je voyais. Dans des leçons aquatiques aux enfants auxquelles j'eus la joie d'assister, je me confirmais dans ma conviction. Ceux qui enseignaient les enfants exprimaient leur approbation ou leur désapprobation par des inflexions de nage, dont, en fin de compte, j'en distinguais deux ou moins. Par l'un, on arrêtait net la leçon, par l'autre, on la modifiait. Blabour y trouvait naturellement son expression. Les hommes des eaux savaient déployer un art de tendresse, de supplication, de fierté, variable d'individu à individu, art plus imprévu que leur art collectif, art très subtil, très délicat et peut-être supérieur à nos idylles cassantes, causantes. Il ne semblait pas avoir l'esprit métaphysique, peu enclin à l'abstraction. Je ne vis nulle trace de culte, de croyance surnaturelle, mais un vif amour de la nature. J'ai parlé de leur douceur envers les oiseaux et les mammifères, et aussi envers les poissons domestiques. Cette douceur les mettait en communication intime avec les êtres. Ils savaient s'en faire comprendre à un degré admirable. J'ai vu donner des ordres à des salamandres, à des chauves-souris, à des oiseaux, à des carpes. Des ordres dont l'idée seule nous paraîtrait chimérique. Par exemple, d'aller en quelques places désignées, quelques îles, quelques distincts districts du lac. Des scies ont fait, sur ordre, des trajets de plusieurs lieues. Des chauves-souris ne chassaient plus pendant quelques jours. Des carpes cessaient temporairement de s'abriter dans une retraite favorite. La scène qui se passa lors de notre première rencontre avec l'homme des eaux se renouvela souvent depuis sous mes yeux. À l'aide d'un roseau entaillé de rainures plus ou moins larges et profondes, et par le frottement d'un crochet de pierre, quelques musiciens produisaient ces notes si finement intervallées. Les sons rassemblaient les bêtes et les tenaient sous le charme. Reptiles, oiseaux, poissons venaient les écouter, et les bêtes de proie accordaient une trêve à leurs victimes. Que de fois ces scènes nous enchantèrent, que d'heures claires à voir tel musicien ou musicienne renouveler les fables antiques et avec un instrument si rudimentaire, que d'extraordinaires félicités dans tous les jeux, dans toute la vie de ces populations amphibies. J'ai dit que les mœurs étaient libres, avec une réserve pourtant. L'union durait un mois lunaire. Généralement, la lune nouvelle coïncidait avec la période du choix. Jeunes gens et jeunes filles s'appariaient alors jusqu'à la fin des phases. C'était tout de même une sorte de mariage, un mariage ensemble, physiologique et astronomique, d'autant que les jeunes filles étaient parfaitement accordées avec l'astre. Ces mœurs ne suscitaient aucun désordre. Elles s'accompagnaient d'une grande loyauté. Ne vit ombre de disputes, moins encore de combats entre nos hôtes mâles. Le choix fait, chacun s'y tenait jusqu'au décours de la lunaison. Chacun le refaisait jusqu'à la lunaison prochaine. Il n'était pas interdit de continuer le mariage par un nouveau bail, mais il était rare qu'on le fît. Plutôt s'y reprenait-on quelques mois plus tard. Et pour les enfants, ils appartenaient pendant quelques mois à la mère, mais la communauté entière veillait à leur bien-être. Relativement à un organe d'adaptation qui pût expliquer leur long séjour sous l'eau, je n'ai pu décidément en trouver aucune trace. Le temps qu'un homme des eaux peut plonger sans reparaître à la surface est parfois de plus d'une demi-heure. Si vous ajoutez à cela une vitesse de nage qui atteint de 30 à 45 km par heure, vous verrez qu'ils peuvent rivaliser avec les cétacés. Ils ont une véritable supériorité sur ces derniers, dans leur œil, qui est admirablement adapté à la vision aquatique. C'est ce que la simple inspection de cet organe pouvaient déjà faire prévoir. Leurs immenses prunelles planes sont aussi favorables à la vue dans l'eau que les yeux du faucon à la vue aérienne. A posteriori, la supériorité de cet organe est surabondamment démontrée par la subtilité de leurs évolutions. Ils accomplissent en troupe des merveilles de précision. Ils calculent à une ligne près des élans qui, mal exécutés, se termineraient par des chocs terribles. Dans leur chasse-pêche, ils perçoivent le menu poisson à des centaines de mètres. Sur terre, leur vue est trouble à la façon de celle des presbytes. Ils distinguent confusément de ça de 10 mètres. En revanche, ils voient assez bien dans le lointain. Leur ouïe aussi est sensiblement différente de la nôtre. J'ai parlé de leur musique intervallée par de véritables commas, de leur bizarre articulation de paroles. C'est, je crois, que, tout comme leur oreille est plutôt adaptée à la vie aquatique qu'à la vie aérienne. On sait que la vitesse du son est plus que quadruple dans l'eau que dans l'air. ce qui crée nécessairement de sérieuses divergences entre une ouïe développée en milieu aquatique et une ouïe aérienne. On répondra que la vraie divergence est que les habitants de l'eau sont le plus souvent muets, que l'ouïe s'est développée avec la raréfaction de l'air. Bon, ne pas discuter si ce problème. L'expérience, de mon côté, en ce qui concerne les hommes des eaux, éprime toute théorie. Je me bornerai à dire que, une fois né, Louis a pu recevoir des modifications dues au milieu même qui avait retardé sa naissance. C'est ainsi que si une atmosphère très dense a pu s'opposer à la production d'un organe d'audition, il n'est pas prouvé que l'organe déjà venu ne serait pas capable de se développer tout de même si l'animal était amené à revivre dans une atmosphère dense. Au surplus, le fait que Louis a cru sur la terre dans les conditions précitées ne démontre pas péremptoirement qu'il n'eût pas cru autrement. Il eût fallu sans doute que quelques millions d'années de plus. Et enfin et surtout, les affirmations actuelles de la science à ce sujet ne sont peut-être pas plus définitives que telle assertion de nos devanciers immédiats, comme par exemple celle, bien importante cependant, qui attribuait le vaste développement des reptiles de l'âge secondaire à la présence de grandes quantités d'acide carbonique. On sait qu'aujourd'hui on l'attribue au contraire à un excès de pression et d'oxygène. Chapitre 6. L'attaque. Un matin, nous voguions mollement, Sabine et moi, sur le lac. Notre ami nous avait d'abord suivis dans notre paresseuse promenade. Il allait, revenait par des sauts imprévus, entraînait quelque temps notre radeau. Nous fîmes halte à l'ombre d'un bouquet de frênes sur un îlot. Des nymphéas songeaient neigeusement sur leurs feuilles assombries. L'humble renoncule d'eau se levait entre de fins archipels d'algues. Les sagittaires déployaient leurs fines pâleurs aux reflets adoucis comme les nimbus à l'aube. Et les poissons aigus, émergeant par cohortes, s'élançaient à la joie. Plantes et bêtes glorifiaient le jour. L'heure sonnait aux carillons de l'ombre, aux rides de l'eau et au balancement du roseau. Les tièdes caresses cherchaient dans les impondérables nus de pollen, dans la fleur venue tendrement des profondeurs vers une fleur aimée. Le monde des eaux, père de la vie, ancêtre fécond, multipliait son intarissable magie. Et le regard de Sabine était imprégné de la fraîcheur du lac, de la palpitation du jour. Ému, je tremblais en la regardant. Éternel Éden de la nature autour de la jeunesse amoureuse. Je me souviens du passage d'un rayon sur elle à travers la trouée du feuillage. Elle était debout, ses cils abaissés vers moi. Le rayon se mit à trembler sur sa chevelure dans un frôlis de feuilles. Un rameau tomba, un insecte brillant erra sur son col. Et le bonheur semblait posé sur l'eau bluissante, sur le bord nacré des pétales. Je la pris contre mon cœur, une douceur périlleuse nous commandait. « Toujours !» murmurai-je. Puis j'eus peur, je m'écartai d'elle. Nous n'osions plus nous parler. Une menace trop charmante rôdait autour de nous. L'accent des feuilles, le foufou d'un passereau, le susurrement des insectes semblèrent des soupirs de l'au-delà. Une rumeur vint nous tirer de cette extase. C'était à notre gauche vers une île de peupliers. Une trentaine d'êtres humains s'y agitaient. D'autres bientôt les joignirent, qui sortaient du lac. « Oh, des hommes des eaux !» dis-je. « Mais vois !» Ils sont autres que ceux que nous connaissons. Effectivement, ceux-ci étaient d'une couleur foncée, une espèce de bleu noir. Sabine se pressa vers moi avec un mouvement de crainte. « Nous retournons chez nos amis. »« Oui, je le veux bien, » dis-je. Je me disposais à démarrer lorsqu'un bouillonnement violent souleva notre radeau. Une demi-douzaine d'hommes émergèrent proche l'îlot. Comme nos hôtes, ils avaient les yeux bizarrement ronds, sans presque de sclérotique, les prunelles quasi creuses. Mais leur teint et leur chevelure étaient fort différents, et aussi leur attitude. Ils nous observèrent à distance. L'un d'eux, jeune homme athlétique, ne cessait de contempler Sabine. Armé de harpons, il semblait redoutable. Je frémis en les voyant s'approcher davantage. Sabine devint très pâle. Tout à coup, celui qui contemplait Sabine parla de la voix humide, clapotante de sa race. J'usa un geste d'ignorance. Ils firent entendre un cri de menace, ils agitèrent leur harpon. La situation devenait critique. J'avais bien ma carabine que je tenais prête, mais les deux coups tirés, comment nous défendre contre ces êtres familiers avec un élément où ils pouvaient se dérober? D'ailleurs, en supposant que je puisse tenir tête, n'y avait-il pas une centaine de mètres, une multitude prête à les aider? Tandis que je réfléchissais au péril, le jeune athlète s'était remis à parler, et du geste il semblait exiger une réponse. Alors j'élevai la voix. Ils furent frappés de stupeur. Arrêtés un instant, en conciliabule, leurs harpons se relevèrent, leur cri s'éleva plus menaçant. Il devint évident qu'ils s'apprêtaient à m'attaquer. J'armai ma carabine. Il régna un moment d'horrible silence. Je le crus perdu, je me préparais à mourir courageusement. Un cri s'éleva au large. Mes antagonistes se retournèrent et je ne pus retenir une exclamation joyeuse. Une troupe de nos hôtes nageait vers l'îlot. Notre ami en tête faisait des signes aux agresseurs. À ces signes, les harpons étaient retombés, et bientôt, Sabine et moi, nous nous retrouvâmes au milieu de nos amis. Nous assistâmes alors à une espèce de cérémonie où nos hommes des eaux faisaient accueil aux autres. De l'île des Peupliers, la horde sombre accourut entière. On échangea des présents, les bras s'entrelacèrent singulièrement. Il me parut discerner quelques faussetés dans les démonstrations des deux races, surtout du côté des sombres. Le jeune athlète continuait de regarder Sabine à distance d'une manière qui me fâchait extrêmement. Nos hôtes nous avaient reconduits à notre île. Notre soulagement fut grand de nous retrouver à l'abri. Toutefois, une inquiétude subtile nous hantait. Je crus remarquer qu'elle était partagée. Notre sauveur, surtout, était ému. Il ne nous quittait plus. Il nous montrait un dévouement admirable et, l'affection appelant l'affection, je me prenais à l'aimer fraternellement. L'après-midi se passa sans encombre. Une heure avant le crépuscule, une députation d'hommes des eaux sombres se présenta à l'île. Parmi ces personnages, je reconnus le jeune athlète. Il semblait agir comme un chef. Les nôtres reçurent la députation avec honneur, offrant des cadeaux. Il y eut une ronde aquatique où les clairs et les sombres se distinguèrent à l'envi. Je me tenais à l'écart avec Sabine et notre ami. Nous observions tout à travers les ramures surbaissées d'un frêne. Malgré notre inquiétude, la fête ne laissait pas de nous intéresser. Au moment le plus animé, tout soudain, deux hommes émergèrent, non loin de notre retraite. Nous aperçurent-ils, avaient-ils épié auparavant, je ne sais, mais ils s'avancèrent sur nous. C'était encore le jeune chef. Seulement, il avait un visage souriant, amical, des gestes pleins de douceur. Il dit quelques mots à notre compagnon, puis, s'éloignant, il regarda Sabine. L'expression de son regard avide, équivoque, me fit frissonner. Ils retournèrent au lac. Alors notre ami, secouant la tête, laissa nettement paraître son inquiétude. Il me fit signe de veiller sur Sabine et que lui-même ferait bonne garde. La nuit fut pénible. Des lueurs couraient sur le lac et parmi les feuillages des îles. On entendait des musiques étranges. On entreapercevait des troupes sur les eaux. C'était à la lune décroissante. L'astre se leva, au tiers rongé, vers 11 heures du soir. Des nues lui faisaient cortège, une pâle théorie qui parcourait tout le zodiaque. Par instant, la lune passait sa tête jaune dans une fenêtre vaporeuse. Alors on apercevait les remous du lac traversé par de grands corps véloces. Vers 1 heure, les sombres vinrent en masse, à moins d'une centaine de mètres de notre île. La lune avait blanchi. Elle surgissait finement sur un promontoire nuageux. Elle traçait une route tremblante sur les ondes. Les peupliers étincelaient avec douceur. Tout au fond, un pan de vapeur se défaisait, laissait transsuder une lumière de métamorphose. La lueur parut y tracer une citerne, un cratère blême, net sur les bords, des écharpes de peluche blanche et des perles. La troupe des hommes poursuivait sa danse aquatique. L'eau se mit à chanter finement, cristallinement. Des voix s'élevèrent en appel. Des jeunes gens de notre île allèrent se joindre à la fête nocturne. Comme ces scènes m'eussent paru charmantes et passionnantes, sans la présence de Sabine. Quelle joie d'étudier les mœurs de ces êtres demeurés d'une antique race aquatique qui peut-être avait dominé sur des continents entiers. Parfois, je m'abandonnais, je goûtais abondamment la poésie du spectacle. Mais bien vite revenaient mes doutes. Et certes, une défiance apparaissait entre les deux races, née peut-être de luttes anciennes. Leur union semblait plus tactique que profonde. Brusquement, la lune se voila, atteinte par de gros nuages. L'obscurité tomba grandissante. J'eus peur, je me rapprochai de l'abri de ma compagne et je me mis à travers de l'étroite entrée. Là-bas, la fête cessait. Nos jeunes gens revinrent. Un profond silence pesa sur les eaux. Je veillais encore. 2 ou 3 fois, je crus entendre un bruit de pas dans les herbes, et je ne m'endormis que vers l'aube. Chapitre 7. La disparition. Rien de particulier ne survint durant la fin de la semaine. Chaque jour, les hommes des eaux noires venaient en députation vers notre île. Les nôtres leur rendaient visite sur la grande île la plus voisine où ils avaient établi leur campement. Les jeunes gens des deux races continuaient à organiser des fêtes. L'animation avait grandi. Les nuits se passaient en ronde, en grands ballets aquatiques, au clair de la lune décroissante. Le temps demeurait tiède. Une invincible exquisité accompagnait l'appréciation continuelle qui me torturait. Mon sommeil était trouble, traversé de cauchemars. Je m'éveillais en sursaut, les tempes baignées et la bouche fiévreuse. J'aurais dû me rassurer, cependant, d'abord parce que nous étions bien gardés, ensuite parce que les nouveaux venus semblaient avoir oublié notre présence. Il était très probable que le jeune chef, en supposant qu'il eût eu quelque idée équivoque, l'avait abandonné avec cette mobilité qui semblait un des caractères de sa race. Mais j'avais beau me répéter cela, je n'en étais pas plus tranquille. Un pressentiment plus fort que toute raison m'obsédait. D'ailleurs, nos amis montraient toujours une méfiance égale à la mienne et qui ne contribuait pas peu à m'énerver. Ils ne devaient pas, eux, être mus par de simples pressentiments. Ils avaient sans doute des raisons sérieuses pour se défier. Un soir, au lever de la lune, les hommes des eaux noires vinrent en très grand nombre accompagnés de leurs vieillards. Il se fit de solennelles démonstrations, de plus nombreux échanges de cadeaux. Je devinai qu'il s'agissait d'un départ. L'espérance glissa furtive sur mon âme. Le ciel était pur sur les trois quarts de son pourtour, particulièrement à l'orient. Une lueur jaune errait sur les eaux. Des bêtes amphibies bruissaient sur les feuilles de nénuphar, sur les longues glaives de l'iris. Toute limite perspective exhalait une poésie nerveuse. On percevait la fécondité sans borne, le tendre élan de joie frôlant la pointe des roseaux, l'air des nochetuelles et des chauves-souris, la rêverie des saules. C'était un de ces jours où la création psalmodie la renaissance éternelle. Les hommes des eaux le sentirent. Leurs adieux furent une fête miraculeuse. Jamais je ne vis sur le petit cosmos lacustre une plus adorable ballet à une plus harmonieuse rêverie mouvante. Corps noir et corps clair passaient en entrelacs infinis, en arabesques pleines d'un sentiment subtil des courbes, en symphonie de trajectoire. Le jeu des raies lunaires sur tous ces corps émergents, plongeant aux profondeurs, tournoyant dans des pénombres cristallines, des flaques de nacre et d'aigues marines, était si doux que j'en oubliais mes angoisses. Vers 1 heure, tout cessa. La scène des adieux fut grave. Je vis s'éloigner l'escadre vivante. « Ah ! » dis-je à Sabine, qui avait assisté avec moi à toute cette scène. « Se pourrait-il qu'il parte ?»« Je le crois, » fit-elle. Ses yeux craintifs se levaient vers moi, inondés de rayons pâles. Je l'embrassai avec un mélange de fièvre et de délices. « Oh, j'eus bien peur pour toi !»« Pourvu, » dit-elle en soupirant, « que mon père revienne maintenant, je suis si inquiète. »« Mais il reviendra !» Mais je n'étais toujours pas tranquille. Une peur informe, sans cause, continuait à remuer en moi, et que l'arrivée même de notre ami, nous expliquant par signes que les autres étaient bien partis, ne put dissiper. Pourtant, vers 2 heures du matin, je m'endormis fiévreusement. Je crois que mon sommeil fut d'abord très lourd, en revanche de mes insomnies des nuits précédentes. Vers le matin, j'eus un cauchemar qui finit par m'éveiller en sursaut. Mon cœur était en tumulte. La terreur régnait sur moi, confuse, étouffante. « Sabine ! » m'écriai-je. Je m'étais levé. Le sang-froid me revint. Je jetai un regard hors de mon abri. L'aube était venue. Les frênes susurraient dans la brise matinale. La lune errant encore près du zénith. Tout respirait la confiance. Les dernières palpitations du cauchemar s'éteignirent. Je restai quelques minutes à contempler la douce incertitude firmamentaire. Ah, qu'il ferait bon vivre ici! Je fis quelques pas vers l'abri de Sabine et tout à coup, l'aspluante stupeur, l'horreur, l'épouvante. L'abri était vide.